Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le député Modem des Hauts-de-Seine, longtemps professeur à Sciences Po Paris. Question réaction 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Jean-Louis Bourlange.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Vous avez siégé près de 20 ans au Parlement européen, institution que vous connaissez comme votre poche. Vous aimez les livres, l'histoire, le débat d'idées. Alors vous, Jean-Louis Bourlange, l'ange européen convaincu. Dites-nous comment vous voyez l'offensive turque au nord de la Syrie. L'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro, dit sur Twitter que ce qui se passe en ce moment en Syrie est pour l'Europe, pour la communauté internationale, notre guerre d'Espagne. Est-ce de cet ordre, selon vous ?
Oui, la guerre d'Espagne, la guerre de Pologne, il y a aussi un côté guerre de Pologne, Staline dit, disant allez-y à Hitler, vous pouvez envahir la Pologne, et Trump disant à Erdogan, vous pouvez envahir le Kurdistan syrien, nous ne ferons rien. La guerre d'Espagne, c'était différent quand même, parce que il a raison, Haro, je comprends très bien ce qu'il veut dire, mais les démocraties étaient faibles, étaient directement confrontées à Hitler et à Mussolini et donc à Franco, il y avait un rapport de force, on n'était pas très fameux. Là,
elles ne sont pas faibles aujourd'hui, les démocraties, Jean-Louis Bourlange.
Ben non. Ce que montre quand même cette affaire qui est très grave, c'est la cassure fondamentale du bloc atlantique. Nous en avions là le sentiment croissant, mais maintenant c'est absolument évident que nos alliés ne sont pas nos amis. Et que nos alliés américains ont décidé de considérer leurs alliés, que ce soit effectivement aujourd'hui les Kurdes en l'occurrence, comme rien. Je crois que ça prouve que nous sommes dans une situation de très grande solitude, de très grand abandon. C'est pourquoi l'Europe n'a jamais été aussi nécessaire. On a dit que l'Europe était nécessaire au moment de la guerre froide, parce qu'il y avait les Russes. Mais il y avait quand même les Américains pour nous protéger. Ensuite, on a dit, après l'effondrement de l'Empire soviétique, l'Europe, ça sert plus à rien, puisque la fin de l'histoire est arrivée. En fait, la fin de l'histoire n'est pas arrivée. Et aujourd'hui, nous voyons bien que l'Europe n'a jamais été aussi nécessaire. Mais nous voyons aussi que nous sommes globalement, et à part la France, qui fait des efforts sérieux, mais solitaires, nous sommes globalement incapables de relever le défi. Donc là, nous jouons notre existence en tant que foyer de civilisation, parce qu'il y a cette affaire-là, il y a les affaires commerciales, il y a la course technologique, il y a tout un ensemble de choses dans lequel les Européens sont aux abonnés absents.
Nous jouons notre existence, dites-vous, c'est pas très optimiste quand on voit, la France et l'Allemagne ont suspendu leurs exportations d'armes à la Turquie, mais l'Union Européenne n'arrive pas à se mettre d'accord sur un embargo parce qu'il y a le veto des Britanniques pour l'instant. Qu'est-ce que ça dit de notre faiblesse, de notre impuissance, si même faire des sanctions commerciales contre Erdogan, on n'arrive pas à le faire?
Ça dit deux choses. Ça dit d'abord que nous ne pouvons pas continuer à bouder l'enjeu institutionnel. On considère que le fédéralisme, c'est horrible, c'est le monstre du Loch Ness, on n'en parle pas. Mais quand vous mettez ensemble 27 États indépendants, souverains, n'ayant aucune organisation commune, vous avez un résultat pitoyable. Imaginez que les États-Unis, au lieu d'être conduits par la Maison-Blanche et par le Congrès, seraient conduits par la libre association de 50 États américains. Donc on a ce problème, quel est le pacte institutionnel? C'est pas forcément un pacte très très contraignant, mais nous avons besoin d'institutions communes, de moyens communs. Et deuxièmement, nous avons un problème idéologique, c'est que nous estimons nous sommes l'Europe, c'est la paix, mais la paix, ça ne doit pas être l'abandon de la force. La puissance, ça n'est pas nécessairement la violence. La politique, ce n'est pas nécessairement l'arbitraire. Le droit, ça ne suffit pas. Il faut que l'Europe se réconcilie avec la politique. Elle en est sortie en réalité au moment de la Seconde Guerre mondiale, elle ne l'a jamais réintégrée. Le général de Gaulle a fait des efforts un peu unilatéraux pour donner une présence politique à l'Europe. Il a été très seul et on est dans cet entre-deux, dans cette apesanteur historique depuis 45, et malgré toutes les sollicitations extérieures, nous semblons incapable d'en sortir. Moi, je dis que nous préparons un 21e siècle dans lequel nous ne saurons rien. Il y a vraiment péril en la demeure et je ne sens pas en Europe les forces intellectuelles, morales, ce que j'écris dans le Figaro ce matin, les forces intellectuelles, oui, morales et politiques
vous dites
pour
aussi,
organiser ce redressement solidaire.
Vous dites aussi dans le Figaro ce matin qu'il y a un président de la République français, Emmanuel Macron, que vous avez soutenu, qui avait
je
eu
soutiens toujours.
À la Sorbonne, que vous soutenez toujours, qui avait eu à la Sorbonne un grand discours sur l'Europe, et puis après quoi? Vous dites-vous, à vous lire dans le Figaro, et puis après plus rien.
Mais écoutez, le discours de la Sorbonne était formidable par son parce qu'il posait le véritable enjeu, à savoir que notre avenir passait par la construction d'un projet européen commun, qu'on s'en tirerait pas tout seul. Tout seul, on pouvait faire un peu les marioles, les entremetteurs, mettre Trump à la même table que Poutine ou qu'Erdogan, ou que les Iraniens,
etc.
Ce
qu'il a
tout
fait,
ça, c'est très bien, mais ce sont des apparences en réalité. Si nous voulons exister dans le concert mondial actuel, il fallait qu'on soit unis, et ça, le discours de la Sorbonne le posait. En revanche, il ne posait pas la question institutionnelle, c'est-à-dire qu'il ne disait pas quelle est exactement, non pas l'abandon des États, parce que l'Europe est celle des États, mais comment les États doivent s'organiser pour fonctionner à la fois démocratiquement et efficacement. C'est très possible, et du coup, il n'a tenu aucun discours institutionnel, et il s'est retrouvé en porte-à-faux avec la seule institution qui irait dans son sens, celle d'aller plus loin, qui est le Parlement européen, d'où le misfit de la semaine dernière, qui est quand même extrêmement regrettable, car en réalité, on a une guerre intestine entre deux forces, le Parlement européen et la présidence de la République française, qui devraient converger. Ça serait pas suffisant, mais ce serait nécessaire si
alors,
on voulait relancer l'Europe.
Le misfit, c'est le rejet par le Parlement européen, Jean-Louis Bourlange, de la candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire, qui est un rejet inédit pour une candidature française. Emmanuel Macron, ça a été sa première réaction, a dit qu'il ne comprenait pas la décision du Parlement. Et vous, est-ce que vous l'avez comprise ?
Oui, j'ai pas compris que Emmanuel Macron ne la comprenait pas. Vous avez tout à fait raison de signaler que c'est le premier rejet d'un commissaire français. Ce n'est pas le premier rejet d'un commissaire d'un État important. C'est moi qui ai inventé cette procédure. Elle n'existait pas. Quand j'étais président de la Commission des libertés en 2004, on avait l'habitude de faire des auditions, mais on ne les faisait pas suivre d'un vote. On envoyait une bafouille, une lettre au président en disant « on a entendu monsieur ou madame Attel », bon, etc. Ça n'avait pas beaucoup de portée. Et sur le commissaire italien qui posait des problèmes, qui était un type bien, mais qui posait de vrais problèmes d'orientation politique, j'ai pris l'initiative de faire voter ma commission et ensuite le Parlement a codifié ça, on a fait le règlement. Donc je me sens un peu...
Oui, c'est de votre faute.
C'est tout à fait de ma faute, mais je crois que c'est essentiel. Il faut sortir de l'idée que la commission n'est pas contrôlée par le Parlement. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. La présidente de la commission est approuvée par le Parlement ou rejetée. Les commissaires sont soumis à ces procédures d'audition, sélection dont Madame Goulard a été la victime. Ensuite, la commission en tant que collège est à nouveau globalement approuvé par le Parlement, et enfin le Parlement a la possibilité de censurer la Commission. Alors quand on nous dit que c'est un aréopage de technocrates irresponsables et contrôlés par personne, je rigole, surtout quand je vois ce qui se passe en France où le gouvernement est plus à l'aise. Donc voilà, je crois qu'il faut d'abord dire ça. Alors
vous n'avez pas été surpris, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué? Est-ce que c'était une erreur de maintenir Sylvie Goulard?
Bien sûr.
Est-ce que c'est un règlement de compte du Parlement? Est-ce que c'est un règlement de compte contre Emmanuel Macron du PPE, de
Bien
la
sûr,
droite
c'est,
européenne?
C'est
quoi?
Alors, d'abord, Sylvie Goulard est une personne qui avait, c'est ça qui a un peu obscurci le jugement du président, c'est une personne de grande qualité. Elle a de la compétence, des convictions et de l'énergie. Donc il a dit, elle a la compétence, les convictions, l'énergie, ça va. Mais c'est pas la politique, c'est pas tout à fait ça.
Et surtout, elle était la seule à le vouloir, le poste. Parce que manifestement, il avait essayé avec d'autres et ils n'étaient pas très...
Il a essayé, s'il demande à Madame Parly qui est ministre, elle préfère rester ministre. ministre des Armées, on comprend. Enfin, c'est pas, ne me dites pas qu'il n'y a pas quand même une femme dans ce pays compétente et capable de pour être commissaire européen. Mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'on a eu tout un ensemble de choses qui ne collaient pas. D'abord, elle avait dû quitter le gouvernement français. La sensibilité des parlementaires européens était très vive. Ils ont simplement dit, pourquoi voulez-vous qu'elle soit digne d'être en Europe alors que vous la jugez, vous, indigne d'être en France? C'est injuste, c'est pas, mais c'était évident que ça serait comme ça. Deuxièmement, on a vraiment cherché le conflit avec Manfred Weber, le président du PPE. On a cherché le conflit. On l'a écarté de la présidence, c'était tout à fait légitime. Mais par exemple, Nathalie Loiseau a dit que c'était un has-been. Bah, le has-been s'est rappelé à notre souvenir. C'était pas la déclaration la plus fantastiquement heureuse des responsables français. Ensuite, il y a eu l'affaire Berghoen. Moi, je suis désolé. Depuis le début.
La fameuse fondation qui a employé
Sidi Gounard. Elle a reçu 330 000 euros en étant parlementaire. Elle était payée 8 500 euros par le Parlement, 13 000 euros par la fondation Berghoen. Et on n'a pas eu. C'est ça qui m'a paru fondamental. On n'a pas eu, c'est tout à fait légitime qu'elle reçoive quelque chose si elle fait un travail. Mais on n'a rien dit sur ce qu'elle faisait. Donc on avait l'impression d'un financement d'une activité politique par une fondation internationale. Donc tout cela a construit un système, a ajouté un tempérament quand même un petit peu fort, pour ne pas dire arrogant, et vous aviez tous les ingrédients de cela. C'était absolument pas surprenant. Et nous l'avions dit, Bayrou l'avait dit. Alors, je pense que quand Bayrou le disait, comme il n'aime pas Madame Goulard, le président de la République, d'ailleurs, c'est Bayrou, il nous embête, il n'aime pas cette femme, etc. Donc je ne vais pas l'écouter. En réalité, nous l'avions solennellement dit. Nous avions dit ça ne passerait pas et ça serait l'occasion d'une crise importante. Donc, je ne sais pas pourquoi le président ne comprend pas, mais nous avons quelques raisons de ne pas comprendre pourquoi il n'a pas compris.
Mais Jean-Louis Bourlange, quand Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes, dit à ce micro vendredi qu'un Parlement n'est pas un tribunal, je la cite, où se jugent les affaires qui ne sont pas jugées par les tribunaux de la justice, n'a-t-elle pas un point institutionnel ?
Donc je ne vois absolument pas, je crois que c'est une erreur de raisonnement totale. Quand on juge de l'équité, de l'attitude d'un ministre, on ne le juge pas comme un juge. Quand un homme politique sanctionne un homme ou une femme politique, il ne la sanctionne pas comme un juge. C'est pour ça que la notion, par exemple, de présomption d'innocence est complètement idiote. Elle s'applique à une filière judiciaire. La présomption d'innocence, ça veut dire qu'on ne peut pas vous mettre en taule ou vous mettre à l'amende sans avoir prouvé votre culpabilité. Là, on n'est pas du tout cela. Là, simplement, les problèmes posés étaient des problèmes strictement politiques. Et je trouve qu'effectivement, on devrait arrêter, les responsables français, je fais cette prière, devraient arrêter d'en remettre. Le président de la République a un peu perdu ses nerfs jeudi dernier. C'est pas la peine de considérer qu'une crise de nerfs est un mot d'ordre politique et que tous les éléments de langage de REM vont dans le sens de cette justification. Moi, je dis halte au feu vis-à-vis du PPE, halte au feu vis-à-vis de la Commission. Il ne faut pas mettre en cause Madame von der Leyen, il ne faut pas contester le droit qu'elle a de répartir les portefeuilles entre les commissaires. Il ne faut pas dire il ne faut pas dire aux parlementaires qu'ils ont eu le temps d'obéir. Un parlementaire n'est pas fait pour obéir. Il est fait pour voter.
Vous leur demandez de revoir leurs éléments de langage, c'est ça?
Je pense que l'anti-parlementarisme est un sport national en France depuis 60 ans, que l'idée que des parlementaires puissent librement se prononcer, à tort ou à raison, ça c'est un autre problème, puissent librement se prononcer sur le choix d'une personne, c'est quelque chose que l'establishment politique et administratif français n'encaisse pas, n'admet pas depuis 60 ans. Et je pense que c'est une grande différence entre nous et les autres et pas à notre avantage.
Alors maintenant il faut trouver une autre candidate ou un autre candidat, mais ça devrait être plutôt une femme. Vous avez un candidat, vous? Une personne?
Non,
parce que vous dites c'est facile de trouver une femme, manifestement pas.
Écoutez, ça c'est vraiment
Vous qui connaissez ces questions-là, est-ce que vous avez une idée?
À deux personnes, plus le Parlement. La première personne, c'est le président de la République. Et la deuxième personne, c'est Madame von der Leyen, puisque nous savons maintenant,
vous n'avez pas d'idée.
J'ai des idées, mais j'ai pas assez. Ça n'a aucun rapport. Moi, je suis très choqué par le fait qu'on impose une parité totalement 50-50. Je trouve ça idiot.
Ah oui, pourquoi?
Parce que ce qu'il faut, c'est une égalité entre les hommes et les femmes. Regardez. La représentation parlementaire du Modem. Nous avons, je crois que nous avons 4 élus, nous avons 3 femmes et un homme. Mais c'est très bien. Ça, on n'est pas obligé d'avoir... Ce qu'il faudrait, c'est évidemment avoir au minimum 40% de chaque côté. Mais l'idée qu'au cordon, à chaque fois, il fallait avoir 50-50, c'est absurde. Moi, personnellement, il y a des tas de candidats très bien, hein, mais je trouve que celui qui s'imposerait, ça serait Michel Barnier, parce que il a l'avantage, notamment, enfin, il est très respecté, indiscutable pour le Parlement, il est très proche du président de la République, et en plus, il reste membre du PPE. Or, je pense qu'il n'est pas inutile, moi qui ne suis pas au PPE, je pense qu'il n'est pas inutile, si on veut bien fonctionner avec le Parlement, de trouver un accord, d'enterrer l'âge de guerre avec le PPE.
Allez, on ouvre le débat avec les auditeurs de France Inter. Bonjour Nicolas.
Bonjour Madame Salamé, bonjour Monsieur Demorand et bonjour Monsieur Bourlange.
Bonjour.
Je me demandais si vous aviez encore un espace politique au sein de cette majorité en France. Est-ce que vous n'êtes plus qu'un faire-valoir de Monsieur Macron, loin des 20% que Monsieur Bayrou faisait à des élections passées, et sa présence n'est-elle plus que symbolique? Et j'en voudrais pour exemple de savoir si vous aviez toujours une influence sur les actions de cette majorité par rapport à la priorité qui avait été donnée au début de ce quinquennat à la maternelle et à l'école dans le primaire. Sont-elles toujours d'actualité? Quand et comment? Et la suppression des aides administratives aux directeurs d'école aura été un très très mauvais signal envoyé par ce président sous prétexte de supprimer les emplois aidés. C'est vraiment une catastrophe. J'invite chacun d'entre vous à vivre en direct une journée de directeur d'école qui est au four et au moulin, ou un directeur d'école élémentaire qui est totalement déchargé et qui a 450 élèves comme dans un collège, mais qui est tout seul pour tout assumer. Voilà, je vous remercie.
Merci Nicolas pour cette question. Je vais donner tout de suite la parole aussi à Mylène de Montpellier. Vous êtes là, Mylène?
Oui, bonjour.
Et bienvenue, on vous écoute.
Oui, bonjour, voilà. Donc déjà, merci beaucoup pour cette émission, encore une fois, pour ce que vous faites à France Inter. Rapidement, je voulais poser la question à Monsieur Bourlange. Bonjour.
Bonjour.
En ce qui concerne la question du voile, tout à l'heure, nous avons entendu Léa Salamé expliquer qu'effectivement, il y a sur le territoire européen des disparités en termes de législation ou pas, d'ailleurs. Est-ce que là, c'est pas une question qui pourrait être traitée de manière européenne, justement, quand on parle d'un Parlement absent? Est-ce que la question du voile ne pourrait pas être prise en compte au sein du Parlement? Et qu'est-ce que vous en pensez précisément de cette situation?
Merci Mylène pour cette question. Jean-Louis Bourlange, pour commencer, la place, l'action, l'influence du MoDem dans la majorité, c'était la question de Nicolas.
Oui, l'influence. Non, d'abord, le choix que nous avons fait les uns et les autres en 2017 n'a pas lieu d'être remis en cause. Nous sommes absolument fondamentalement d'accord avec les orientations du président de la République, et plus encore, nous ne voyons pas à qui on pourrait se fier si nous n'étions pas derrière le président Macron. La seule force d'opposition maintenant réellement organisée, c'est le Rassemblement National, dont tout nous sépare. La gauche est éclatée, elle ne sait pas où elle habite, et la droite, je souhaite bon vent à Monsieur Jacob, que j'ai bien connu comme parlementaire européen et que je côtoie à l'Assemblée nationale, mais le moins qu'on puisse dire est qu'il a un travail extrêmement difficile de clarification entre des orientations contradictoires pour sa formation. Je crois que nous sommes très clairs dans nos orientations, on les aurait qualifiées du temps de Giscard et de l'UDF de libérale, sociale et européenne. Je pense que nous sommes très clairs sur ces orientations. Elles sont portées par Emmanuel Macron. Et alors ensuite, l'influence. L'influence, c'est vrai, mais ça rejoint ce que je dis tout à l'heure, c'est que nous sommes dans un système où les parlementaires, moi je le vis au quotidien, et je partage votre inquiétude. Je trouve que les parlementaires ne sont pas véritablement influents. Il y a des gens très bien, j'écoutais tout à l'heure, même si je ne suis pas forcément d'accord avec lui, le député de la Creuse qui proposait des initiatives en matière de cannabis, qui étaient très intéressantes, même si on peut ne pas être d'accord, mais globalement, on voit bien que dans le système de la France, quand on est dans l'opposition, on n'est pas dans la majorité, et quand on est dans la majorité, on n'est pas au gouvernement. Donc, on est effectivement dans une position qui est un petit peu frustrante. Sur la question que vous posez, je suis entièrement sur la sensibilité que vous exprimez. J'ai été très impressionné par le suicide de cette directrice d'école, par la lettre qu'elle a envoyée, par le reflet que cette lettre exprimait d'une situation humaine, professionnelle, vraiment intolérable. Je fais totalement confiance à Monsieur Blanquer, qui, je crois, a vraiment une conscience très aiguë des nécessités. En revanche, c'est vrai que nous butons très profondément sur l'obstacle budgétaire. Et c'est vrai aussi pour Madame Buzyn avec les urgences, c'est vrai dans tous les domaines. Nous sommes confrontés à des revendications catégorielles qui sont, en général, très légitimes, parfois très angoissé et légitimement angoissé, et la France n'est pas si riche qu'on le pense.
Et vous comprenez la décision sur les emplois aidés, pour revenir à la question de l'auditeur.
La décision sur les emplois aidés,
c'est ça qu'il vous dit. Il vous dit on a supprimé les emplois aidés, voilà où on se retrouve.
Non, mais les emplois aidés, je pense qu'il faut poser le problème autrement. Mais je pense qu'il faut vraiment faire un effort budgétaire particulier sur l'enseignement primaire, et je pense qu'il faut repenser la fonction de directeur d'école. Le directeur d'école est actuellement une vache à lait, un homme ou une femme à qui on demande tout et le contraire de tout. C'est dans une société extrêmement tendue, c'est extrêmement insupportable. Donc il faut vraiment repenser ça. Je crois que Jean-Michel Blanquer en est parfaitement conscient. Mais c'est un problème de choix budgétaire, et je comprends votre inquiétude et même votre colère. Je pense qu'il faut devenir plus riche collectivement pour dégager les moyens.
Et sur la question de Mylène, régler le problème, le sujet du voile à l'échelle européenne,
Jean-Louis Bourlange. Nous avons une charte des droits fondamentaux. C'est d'ailleurs sur la base de cette charte des droits fondamentaux qu'en 2004, nous avions retoqué le commissaire proposé par M. Barroso, qui ne nous semblait pas prêt à les défendre comme nous souhaitions. Simplement, depuis toujours, le problème du vêtement, le problème de la nature du voile est posé. Si on en croit Locke, le grand philosophe libéral, le droit au vêtement fait partie des droits fondamentaux de l'être humain. On peut également considérer que le voile est un instrument non pas simplement de mise en cause de la laïcité, ce qui n'est pas le problème en réalité, parce qu'on a des petites croix, des trucs comme ça. Ce qui est en cause, c'est la mise en cause de l'égalité, de la dignité des femmes. Moi, je me rappelle, mon premier article que j'ai écrit il y a très longtemps, c'était sur un livre de Germaine Tillon, qui s'appelait « Le harem et les cousins », et où elle expliquait que le port du voile n'était pas du tout une création islamique, mais était une création de l'ancien monde, à partir du moment où on est passé à l'exogamie, c'est-à-dire à l'échange des femmes, et que c'était un moyen clair de contrôler les femmes. Donc il y avait une réalité anthropologique sociale qui était de domination de la femme. Donc on en est là. Doit passer le point d'équilibre,
c'est très difficile.
Moi, j'ai une attitude très centriste sur ce plan-là. Je ne suis pas gêné par le voile dès lors qu'il ne cache pas le visage, et je suis en revanche horrifié par la dissimulation d'identité impliquée par certaines tenues vestimentaires.
Et sur les sorties scolaires, puisque c'est l'actualité, qu'est-ce que vous en dites? La droite veut une loi pour interdire les mamans voilées lors des sorties scolaires.
Écoutez, les lois, c'est bien, mais il faudrait peut-être les appliquer. On a une loi contre la burqa. Est-ce qu'elle est appliquée? Est-ce que quelqu'un se promène dans les quartiers de Mantes-la-Jolie en disant on va l'appliquer? Non, parce qu'on sait que c'est une émeute. Alors c'est grave. Il faut pourtant l'appliquer, celle-là. Ça, je le crois. Mais arrêtons de dire qu'on résout les problèmes avec des lois. On doit résoudre les problèmes avec des moyens pratiques et conduire les gens à ne pas enfreindre la loi, ce qu'on fait actuellement systématiquement.
Jean-Louis Bourlange, merci. Député MoDem des Hauts-de-Seine et, on l'a entendu, grand connaisseur de l'Union européenne et du Parlement. Merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin.